Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'éducation des garçons et aux relations mère-fils qui sont encore peu explorées. Élever un garçon n'est pas de tout repos, disent certains, autant sur le plan des résultats scolaires qui sont souvent moins bons que ceux des filles, que des conflits au quotidien. Bref, pour résumer une partie de vos messages, les garçons nous fatiguent. Alors comment canaliser leur énergie, tisser une véritable complicité avec eux aussi, comment les aider à se construire en tant qu'hommes. Nous allons en discuter avec vous, Alix Leduc. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Élever un garçon », mission impossible, enfin le IM est barré, donc mission possible, c'est bien le titre du livre. Votre première légitimité sur le sujet, c'est d'être maman de 3 garçons. Mm-hmm. Qui ont quel âge ?
Qui ont 7, 5 et bientôt 2 ans.
Voilà, donc petit. Bien heureuse femme, diront une partie des voisins. Vous êtes journaliste aussi, auteur de plusieurs ouvrages sur la parentalité. Également avec nous, Nicole Prieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute, vous écrivez beaucoup sur la famille, vous êtes aussi maman de 3 garçons, 3 fils.
Oui.
Adulte aujourd'hui.
Oh, complètement adulte.
Et parmi les enfants qui viennent vous consulter avec leurs parents, quelle est la proportion de garçons ?
Ah oui, c'est vrai qu'élever un enfant, enfin, ou avoir l'annonce de qu'on est enceinte d'un enfant, ça soulève pas mal d'inquiétudes, pas mal d'appréhensions. Et j'ai envie de dire, dans ces appréhensions, il y a des choses qui se confirme. Donc justement, dans ma consultation d'enfants et d'adolescents, j'ai bien plus de garçons, j'ai à peu près 2/3 de garçons par rapport à 1/3 de filles, alors que ça s'inverse au moment de l'adulte.
Ouais.
Pour les adultes, j'ai très peu d'hommes, j'aurais envie de dire j'ai peut-être 10% de ma consultation d'hommes par rapport aux femmes qui sont bien plus nombreuses en tant qu'adultes.
Est-ce que vous les avez guéris ?
Oui.
Alors bien sûr, il ne faut pas non plus généraliser sur ces fameux garçons turbulents. Je ne sais pas si vous avez lu Emmanuel Macron, selon sa mère pendant la campagne électorale, elle a dit qu'il n'aurait marché qu'à 2 ans. Alors le slogan En Marche, ça me fait bien rigoler, a-t-elle déclaré à un média.
C'est pas mal.
Italien, voilà, c'est pour notre nouveau président. Appelez-nous bien sûr les voisines et les voisins pour nous parler de vos relations avec vos fils, mais également des garçons à l'école si vous êtes enseignant, au 33 1 84 22 71 71. Le cri des pères sur Facebook aussi, Archiduc qui est à N'Djamena, nous dit « Mon fils aîné est un garçon difficile, turbulent, amusant et têtu ». Voilà, tous les adjectifs qui le définissent. Djibril Akaï au Mali, les garçons n'en font qu'à leur tête, les mamans se retrouvent alors sans solution, elles ne se reconnaissent pas dans leur fils. Il faut savoir mettre les points sur les i, sous-entendu peut-être qu'il faut que les pères soient là, je ne sais pas. Et puis un papa philosophe aussi, Elie Aloubumbashi en République démocratique du Congo, il y a toujours moyen de s'en sortir. Ils sont comme l'eau, ils suivent le chemin donné. La discipline doit être appliquée avec sagesse et le garçon suivra la ligne droite. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile. Bon, il arrive quand même qu'il y ait une petite crue dans la rivière, hein, on va dire, non ? Garba à Niamey au Niger. En tant qu'enseignant, nous dit Garba, directeur d'école pendant plus de 15 ans, je reçois chaque fois plus de plaintes envers les garçons et les filles sont plus attentives et dociles. On a exactement la même chose en France, dans un univers scolaire en plus qui est dominé par les femmes, hein, Nicole Prieur.
Tout à fait.
Une voisine à Abidjan. Alors elle est maman de 4 filles. Moi qui n'ai que des filles, ça me soulage de savoir que c'est parfois plus difficile d'élever des garçons. Mais les filles aussi, c'est compliqué. Les règles, l'adolescence, la sexualité, l'incompréhension. Et il y a Rachel qui nous écrit de Chennai en Inde. Et elle nous dit que chez elle, en Inde, avoir un garçon est perçu comme une bénédiction. Les parents sont considérés comme chanceux. Mais la majorité des parents de garçons ont un vrai problème pour s'en occuper. Ils sont moins dociles que les filles. Il est interdit de savoir le sexe d'un bébé avant l'accouchement en Inde, hein, je le précise, à cause des avortements sélectifs contre les filles. Et donc, rappelle Rachel, quand le médecin m'a dit que moi j'étais enceinte de jumeaux, j'ai prié avec ferveur pour avoir des filles. Et grâce à Dieu, j'ai eu des jumelles qui ont maintenant 6 ans. Voilà, joli témoignage aussi pour ne pas oublier les filles. Vous nous appelez bien sûr au 33 1 84 22 71 71 si vous êtes maman ou papa de garçon.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard que vous pouvez composer pour dialoguer avec nos invités. Nous accueillons un papa qui nous appelle de Niamey. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est papa. Bonjour Moussa.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Est-ce que vous êtes un père de famille ou pas?
Non, pas encore.
D'accord.
Mais je crois qu'on ne va pas tarder.
Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est formidable. Et alors, vous nous appelez du Niger. J'imagine que vous souhaitez nous parler un peu de la différence de perception par rapport aux garçons et aux filles, selon qu'on attend un garçon ou une fille.
Oui, moi j'étais surpris de lire votre annonce, disant que ailleurs on préfère les filles aux garçons parce que les garçons cassent tout. Ici, le garçon peut tout casser, on le préfère à la fille. Oui. Quand une femme est enceinte, l'homme est pressé de connaître le sexe de l'enfant. Et pour celui qui n'a pas pu faire l'échographie, quand la femme accouche, quand c'est un garçon, il est tout souriant, tout heureux. Mais quand c'est une fille, il est triste.
Et pour les mamans alors? Parce que vous dites qu'il peut tout casser, donc ça ne doit quand même pas être simple.
Oui, en fait, du côté des mamans, il n'y a pas vraiment le choix. C'est surtout les hommes qui préfèrent les garçons. Ils disent que le garçon, c'est plus facile à éduquer, son habillement coûte moins cher, il n'est pas trop exigeant, alors que la fille doit se faire belle tout le temps, tout la robe, les chaussures, les produits cosmétiques. Et le problème, c'est que quand la fille n'a pas ça à la maison avec les parents, elle a tendance à aller se chercher dehors. Et là, elle revient avec un enfant hors mariage, mal vu dans la société.
Oui, ouais, la sexualité. Alors, ceci dit, sur les filles adolescentes, on retrouve aussi ces mêmes problématiques en Europe. Une adolescente, effectivement, sollicite davantage sa maman pour des dépenses. Mais Moussa, vous, alors, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous désireriez avoir? Vous êtes conforme à la société nigérienne?
Non, justement, si j'appelle, c'est pour dénoncer ce fait. Moi, je veux un enfant. Fille ou garçon, ça m'est égal. Je sais qu'on ne choisit pas le sexe de son enfant. La science n'est pas arrivée là. Et en tant que croyant, je pense que c'est Dieu Allah qui donne un enfant. Donc, il vous donne ce qu'il veut. Moi, tout ce que je souhaite, c'est d'avoir un enfant.
Et c'est pour quand la bonne nouvelle, alors, Moussa?
Je ne sais pas encore.
Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on pense bien à vous. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Moussa, vous avez entendu le témoignage de Moussa. Évidemment, bien sûr, que d'une culture à l'autre, Rachel qui s'exprimait aussi sur l'Inde. Mais ce qu'on découvre dans votre livre, Alix Le Duc, c'est que en France, dans plusieurs pays d'Europe également, il y a des mères, il y a des témoignages de mères qui fondent en larmes quand on leur annonce qu'elles attendent leur deuxième garçon.
Oui. Même le premier.
Le premier.
J'en avais parlé avec ma gynécologue qui avait trois garçons. Et moi, pour mon premier fils, déjà, j'avais la pression, très sincèrement, de proches qui me disaient « Pourvu que ce soit une petite fille. Si c'est un garçon, c'est très bien, mais pourvu que ce soit une petite fille avec une maman, la complicité, tout ça. Bon. » Donc, j'ai eu un garçon. Le deuxième, un garçon. Donc là, j'ai commencé à en parler avec la gynécologue qui me disait qu'elle consolait beaucoup de patientes à ce sujet. Donc oui, il y a quand même, ça peut choquer, mais il y a quand même une sensation que ce n'est pas à la mode d'avoir un garçon aujourd'hui.
C'est ça, vous le dites, ce n'est pas à la mode d'avoir un garçon aujourd'hui en France.
Moi, je le vis au quotidien.
Mais qu'est-ce que vous avez entendu dire finalement sur ce qui vous attendait?
Ben moi, vraiment, dès le premier, c'était vite, il faut faire un deuxième pour avoir une fille, pour qu'il ait une petite sœur. Donc le deuxième, c'est un garçon. Et pour le troisième, j'ai tout eu, enfin, j'ai vraiment eu... pas de chance, limite mes condoléances. J'allais au Monoprix, on m'a dit la nature est mal faite. Enfin, j'ai vraiment tout eu. Non, vraiment. Et donc, d'où ce livre. J'ai vraiment eu la sensation.
On est vraiment dans une situation inversée. Hein, parce que là, si vous voyagez dans des sociétés traditionnelles, vous allez être totalement déifié. Hein.
Exactement. Ouais, on est vraiment dans une autre, dans un autre mouvement. Et j'ai eu envie de faire ce livre pour comprendre et défendre, quelque part, les garçons.
Pourquoi les femmes veulent absolument avoir des filles, dans le fond, aujourd'hui, dans nos sociétés dites occidentales?
Je pense, enfin, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est cette idée de relation miroir, de mini-moi, très tendance aussi en ce moment, cette idée que peut-être qu'on rajeunit en ayant quelqu'un qui... Voilà, cette histoire de comparaison, complicité. Et peut-être que ça a un lien aussi, là, je m'avance un peu, mais dans cette idée de féminisme, moi, ce qui m'a beaucoup choquée, ce qui me choque tous les jours encore, presque, c'est que je suis féministe, mais qu'en ayant des garçons, je me demande quelle image on a des hommes parfois, vraiment.
C'est-à-dire,
quand on me dit ma pauvre, ça va être difficile, toutes ces
sous-entendu, tu vas être l'esclave de tes fils,
et la bonne, voilà, tout ce qui va avec. Je dis, mais ce sont des mini-hommes, enfin des mini-hommes, donc des hommes en devenir. Et quelle vision on a des hommes aujourd'hui? Est-ce que on peut être féministe et aimer les hommes, c'est la vraie question. Voilà.
J'espère.
Quel est le regard de la psychothérapeute que vous êtes et maman de trois fils également?
Oui, alors c'est vrai que ce que vous dites, Alix, c'est ce qu'on dit beaucoup d'auditeurs, c'est que finalement les choses ont beaucoup évolué dans notre société occidentale. Il y a peut-être 60-70 ans, c'est vrai que avoir des garçons était quand même extrêmement bien vu et c'était presque aussi considéré comme une bénédiction. Alors qu'aujourd'hui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, des garçons ont une énergie qui déborde facilement les parents. Il faut fonctionner avec eux d'une manière un peu frontale. C'est-à-dire, si on se contente de dire un petit non, tranquille, doux, etc., c'est sûr qu'ils vont tout casser. Donc ça pousse les parents, qui ont déjà du mal à être dans leur fonction et dans leur position de parents, ça pousse les parents à être vraiment des parents, c'est-à-dire à marquer les choses. Ça pousse un père à s'affirmer dans son identité et de père et d'homme, et une mère justement à se poser dans une identité différente de son garçon, donc comme dans sa différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de s'affirmer beaucoup plus devant un garçon, ce qui nous renvoie à quelque chose qui est plus complexe au niveau de l'identité des garçons d'ailleurs, justement l'identité virile aujourd'hui, puisqu'elle a été transformée. Donc par rapport, quand on est parent d'un garçon, indépendamment de la difficulté dont je viens parler, il y a aussi comment on se situe par rapport aux stéréotypes du genre. Autant on peut accepter qu'une fille, s'il y a un curseur au niveau de la fille, qu'elle soit très coquette, elle se met toujours du rouge aux ongles, ou elle peut être à l'inverse extrêmement garçon manqué. On peut accepter que ce curseur bouge et on peut accepter, on la considérera comme fille, mais un garçon sensible, qui pleure, qui aime finalement peut-être la danse, peut-être des choses un peu plus féminines, ou au contraire un macho, on va se demander, mais où est-ce qu'on va le situer? Donc ça nous interroge tous dans nos identités, j'ai envie de dire, d'hommes et de femmes, de pères et de mères, et du coup ça nous bouleverse un petit peu, ça nous questionne. C'est moins évident, hein, comme vous disiez, Alix, en tant que féministe, moi je sais que je me sens tout à fait, pas forcément féministe dans le sens où active,
mais acceptant l'égalité des sexes, qui est aujourd'hui
façon, j'ai agi au sein de ma famille pour que les garçons fassent la même chose. Je leur ai offert des poupées à mes garçons, ils ont cuisiné autant que moi quand ils étaient petits, donc c'est important pour moi de décloisonner la structure du genre. Mais du coup, ça nous oblige à réfléchir à comment est mon garçon s'il aime jouer à la poupée, quoi.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On va parler de cette relation aussi mère-fils, parce que justement c'est une relation, il n'y a pas de relation miroir.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins
et la planète sépare.
Pas de relation miroir entre une maman et son fils, encore qu'il y a beaucoup de témoignages dans votre livre, hein, Alix Leduc. Il y a cette maman d'un garçon de 18 ans qui dit « Mon fils, je l'ai élevé comme un pacha, il était pourri, gâté, toujours placé au centre de tout. Aujourd'hui, c'est encore lui qui fait la loi à la maison. Je parle de lui en permanence. En fait, je trouve que mon fils, c'est moi en mieux. » Formidable, c'est génial, ce témoignage.
Ouais, exactement. Ce que je trouve très intéressant, quand on parle de relation miroir, moi, quand on me disait « C'est dommage, tu n'auras pas cette complicité avec ta fille », alors le côté le partage de ce qu'on connaît, ça, relation mère-fille. Ce que je trouve très intéressant dans la relation mère-fille, c'est justement l'altérité, c'est l'inconnu, c'est d'apprivoiser. Moi j'ai eu des frères, j'ai beaucoup d'amis hommes, mais avec des fils c'est encore complètement différent. C'est une découverte. Je me retrouve, quand on me dit c'est pas les mêmes centres d'intérêt, je me retrouve à m'intéresser au foot,
bien sûr,
voilà,
tout à fait.
À vibrer.
J'ai regardé
regarder des matchs de foot.
Nicole Prion, vous dites d'ailleurs que vous vous êtes découverte autrement en tant que femme avec vos fils.
Hein. Tout à fait. J'ai envie de dire, ils m'ont renvoyé un miroir de moi qui était justement l'intérêt, qui était autre que celui que je pouvais imaginer. Et justement, la différence, c'est vraiment une expérience de l'altérité. Ils nous montrent comment ils fonctionnent, bien sûr, différemment de vous, de nous, et comment ils nous regardent aussi autrement que ce qu'on croyait pouvoir nous regarder nous-mêmes. Je veux dire, c'est vraiment une découverte d'une forme d'étrangeté, et du coup, ça nous permet de nous reconnaître complètement autre. Et moi, je pense que mes garçons m'ont fait évoluer d'une façon énorme. Mmh. Et du coup, ils m'ont fait comprendre un petit peu ce que des garçons, des hommes peuvent ressentir. Mmh. Je ne l'aurais peut-être pas ressenti de la même manière, même dans mon travail de thérapeute, si je n'avais pas eu cette expérience auprès de mes garçons.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour fiston, c'est votre prénom ?
Bonjour Imane.
Mais vous êtes bien nommé, vous avez 38 ans, c'est bien ça ? Vous êtes papa ?
Je suis papa, effectivement, oui. J'ai 33 ans pour rectifier.
Pardon.
Bonjour à nos invités.
On vous écoute, fiston.
Alors, moi j'ai un fils, il y a 7 mois, mais le garçon, c'est lui qui fait la loi à la maison en fait. Quand on n'est pas là, il respecte la nounou et que moi je vais à mon travail, ma femme aussi, il est un peu plus calme.
D'accord. Votre petit garçon donc a un peu plus de 2 ans, hein, c'est bien ça, 27 mois.
Oui, 27 mois. Il a juste 2 ans et 3 mois.
Et il fait la loi à la maison.
Effectivement. Donc, quand il sort ses jouets pour jouer, il choisit ce qu'il veut, il le dépose là où il veut, vous ne le déplacez pas, vous ne changez pas d'endroit. Sinon, il vous jette tout ce qu'il a entre ses mains. Là, c'est quand même, il reste avec la nounou. Alors, quand sa maman revient de son travail, là, c'est encore moyen. Alors, maman qui veut ranger les histoires, Eliel, tu rembasses ici, tu rembasses. Il dit carrément, je ne fais pas. Alors, quand tu essaies de régler ces histoires-là, de mettre ailleurs, il jette tout ce qu'il a en main. Et quand il s'énerve, c'est du genre vraiment taper des claques sur sa maman et tout.
Ouais.
Là, ça se passe encore mieux. Quand moi, je rentre de mon service, là, ça devient pire.
Ah bon ?
Des sautiers sur les canapés. Allô ? Vous m'entendez ?
Ah oui, on vous entend. Oui.
Voilà, donc moi quand je rentre du boulot, c'est encore pire parce que là, il saute sur les canapés, c'est tout ce qu'il veut faire, il fait. Quand tu lui parles, il te jette des histoires, il te donne des claques, comme c'est un petit bébé, on ne sait pas trop le taper, alors on le tient, on le porte, on lui explique qu'on ne fait pas ça, on ne tape pas ma part, on ne tape pas maman, mais là, il répond non.
on vous sent très, très désemparé, effectivement. C'est votre témoignage est intéressant, Nicole Prieur.
Oui, mais parce que j'ai envie de dire qu'un enfant... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est garçon, mais peut-être qu'un enfant qui exprime autant un petit peu son désarroi, peut-être qu'il a une souffrance, il a peut-être du mal à trouver sa place. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait qu'il soit garçon ou pas. Mais en tous les cas, il faudrait peut-être entendre ce qu'il dit dans ses trépignements, dans ses colères.
Pour l'instant, c'est un enfant unique, c'est le premier enfant de la famille.
Effectivement, c'est le premier.
Oui. Alors peut-être qu'effectivement, quelque part, il vous oblige à avoir encore plus une position d'autorité et peut-être qu'effectivement, il vous oblige à prendre un petit peu le taureau par les cornes et peut-être à un peu plus instituer une loi de « tu ne déborderas pas de la même manière ». Peut-être qu'il y a aussi à voir entre la maman et vous, comment trouver des territoires d'entente pour lui imposer un petit peu une loi, un petit peu des limites.
Est-ce que vous faites une petite partie de foot, par exemple, quand vous rentrez du travail avec votre fils, histoire de le défouler.
Oui.
Hein?
Oui, un peu.
Ça marche pas mal, ça, non ?
Oui, ça marche très bien, il aime bien ça.
Ah bah voilà. Mais il faut peut-être en faire davantage. Merci beaucoup de nous avoir appelé, fiston. On va prendre d'autres auditeurs. Vous êtes nombreux à parler, à souhaiter vous exprimer, à poser des questions à nos invités sur ces garçons qui sont tout de même plus turbulents et qui laissent d'ailleurs beaucoup de pères assez désemparés. Élever un garçon, mission possible, c'est le titre de votre ouvrage, Alix Leduc, maman de 3 garçons et journaliste. Et Nicole Prieur, vous avez signé cette préface et vous donnez de nombreux conseils dans le livre. Vous êtes psychothérapeute. Vous nous disiez en première partie d'émission que parmi les enfants qui viennent avec leurs parents pour une consultation chez vous parce qu'il y a un problème dans la façon dont ils se conduisent, il y a beaucoup plus de garçons. 5 fois plus de garçons aussi que de filles en consultation chez l'orthophoniste. Alix Leduc, évidemment, en tant que maman de 3 garçons, vous vous insurgez aussi un peu contre... Alors, on ne peut pas parler de stéréotypes, ce sont des statistiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les garçons sont davantage en difficulté scolairement. Mais vous dites, en tant que maman, c'est insupportable qu'on nous renvoie cette réalité-là.
En fait, la première fois que j'en ai eu conscience, c'était en ma première année de maternelle, l'institutrice de mon fils, qu'on a eu en entretien et qui a fait l'entretien en disant qu'elle en avait marre d'avoir autant de garçons dans sa classe, que les garçons, ça tient moins bien le stylo, que ça fait du bruit. Enfin, vraiment, nous, on avait déjà 2 garçons à l'époque, on a acquiescé. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. La deuxième année, maintenant, il y a souvent des histoires d'échelle de comportement avec des couleurs. Et je regardais le tableau et c'était toujours évidemment les garçons qui étaient dans les mauvaises couleurs. Et donc, quand mon fils a commencé à avoir des couleurs, les premiers temps, il rentrait à la maison en larmes avec les mauvaises couleurs toutes rouges, etc. Donc, on a pris un entretien pour savoir.
Il y a vraiment une stigmatisation en fait, de la sphère scolaire qui est essentiellement féminine. Hein. Il faut rappeler les chiffres, 7% d'hommes seulement chez les enseignants à l'école primaire.
C'est un univers féminin.
Donc,
effectivement, du coup, après, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur ça qui étaient assez alarmants, qui étaient « Sauvons les garçons », ce genre de titre, où effectivement, on parlait de l'échec scolaire des garçons qui commence dès la primaire et qui ne fait qu'augmenter au collège, où ils décrochent, beaucoup plus de redoublements et les diplômes qui vont avec après. Donc c'est vrai que quand j'ai voulu savoir pourquoi ces couleurs, c'était parce qu'ils se retournaient trop, parce qu'ils bougeaient trop. Donc c'est vrai que du coup, il y a quand même quelque chose où on demande, tous les spécialistes que j'ai interviewés dans le livre nous le disent, c'est qu'en fait les garçons, par leur morphologie, ont besoin de bouger. Alors, on leur demande d'être comme des filles.
Justement, on a Tiburce qui souhaite vous interpeller sur ces questions-là. Tiburce, vous nous appelez de Libreville au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Tiburce.
Bonjour Emmanuel Baptiste, bonjour à votre invité aussi.
Alors vous avez 2 garçons, 5 et 16 ans, et 2 filles de 2 et 12 ans.
Oui.
Bon, au moins égalité des sexes et puis 2 générations différentes. Alors qu'est-ce que vous observez?
Ah oui, j'ai constaté que les garçons ont été plus turbulents que les filles. Au niveau de l'éducation familiale et tout.
Oui.
Et je voulais bien poser la question de savoir si c'est lié au sexe. Parce que j'ai eu plus de facilité avec les filles qu'avec les garçons. Voilà.
Mais vous, en tant que père, alors justement, comment vous avez réagi? Quel père vous êtes et quel père vous avez été avec ceux qui sont déjà dans l'adolescence?
Oui, parce qu'ils étaient assez turbulents, surtout pour le premier, avec qui j'ai tenté l'expérience. Je me suis imposé, parce qu'il fallait le montrer que je suis le père à la maison. Et lorsque je suis là, c'est moi qui donne la manière de marcher.
Oui.
C'était difficile au départ, mais après, il a pu intérioriser cela.
Mais vous dites que vous avez conservé de bonnes relations avec vos fils parce que vous leur avez confié des responsabilités. C'est ce que vous avez dit au standard.
À des moments, je me suis fait son ami.
Oui.
Et il arrivait que quand je sortais, j'essayais de le responsabiliser sur certaines tâches.
Oui.
Et lorsque je venais, je vérifiais s'il les avait faites. C'était pour l'amener à apprendre à s'auto-responsabiliser. Ça a bien marché avec lui. Et je constate que ça marche aussi avec le plus petit.
Ça fonctionne bien avec les garçons, leur confier des responsabilités. C'est ce que vous souhaitez dire. Alors sur la question, pourquoi les garçons sont plus turbulents que les filles? Déjà, il y a une force de masse musculaire. Hein.
Oui, il y a la morphologie, il y a même leur psychisme. Enfin, ils sont plus dans l'acte, dans le geste, dans l'action, qu'au départ, dans la réflexion. Aussi bien ce qui rend un peu difficile au début leur apprentissage aussi au niveau scolaire. Ils ont du mal à rester toute une journée assis à l'école. Et c'est vrai que de vouloir les contraindre, on est débordé parce qu'on ne comprend plus, cette tonicité, ce tonus-là. Et du coup, comme on ne la comprend plus, on va la contraindre. Alors, quand on dit que les filles, effectivement, sont moins turbulentes, lentes, sont plus souples, obéissent mieux, plus, je ne crois pas que ce soit forcément mieux pour leur évolution et pour leur, finalement, leur affirmation de soi. Parce que finalement, ce que je travaille, moi, auprès des adultes, auprès des femmes adultes, c'est justement qu'elles se sont tellement soumises quand elles étaient petites, qu'elles devaient finalement ne pas faire de bruit, être transparentes, etc., qu'après, elles prennent l'habitude de rester dans une position un petit peu de, pas de soumission, mais enfin d'être éteinte par rapport au retrait. Donc, ce n'est pas forcément un bien pour un enfant que d'être toujours très calme, très obéissant. Ce n'est pas forcément un bon critère d'évolution pour la suite. Mais c'est vrai qu'on ne regarde pas assez que le tonus d'un enfant, le tonus d'un garçon peut nous aider à nous, nous-mêmes, et moi c'est un peu comme ça que j'ai vécu moi, ma propre maternité avec mes trois garçons, ça nous aide à trouver notre propre tonicité, notre propre tonus. Ça m'a rendue énergique. Ça nous rend, effectivement, on apprend à courir. On ne regarde pas seulement les matchs de foot, mais on commence à jouer dans le couloir avec eux au foot et au judo.
Vous confirmez, Alix Leduc.
Oui, c'est encore petit, donc
il faut absolument des activités physiques pour les petits garçons, c'est essentiel, ça.
Et ils participent.
Notamment des sports d'équipe aussi.
Oui, et là justement, ils apprennent un petit peu, parce que ce qui est difficile, alors tout à l'heure, votre auditeur parlait un petit peu de responsabilité. C'est vrai qu'il est important aussi, et ça peut être quelque chose qu'on peut présenter aux parents, ce qui est important que les garçons mesurent aussi l'impact que peut avoir leur énergie sur les autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de restreindre leur énergie, mais de leur montrer que quand ils sont toniques, quand ils courent à travers un couloir ou dans une chambre ou dans un appartement, ça peut déranger les autres. Donc, les rendre attentifs à justement ce que leur manière d'être peut avoir comme incidence et influence sur les autres. Donc, des sports d'équipe, des sports où ils prennent en compte justement comment les autres se comportent et justement la place du corps aussi des autres, ça peut être tout à fait efficace et ça peut un petit peu les rendre un peu plus calmes pendant quelques secondes.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards, parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre, et voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?
On vous attend. Appelez vite.
On accueille Fer qui nous appelle d'Antananarivo à Madagascar. Bonjour Fer.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Oui, je suis moi-même la maman de trois enfants, deux garçons et une fille, qui sont déjà adultes. Mais de leur enfance et adolescence, j'en garde un souvenir merveilleux, des adultes très responsables.
Ça veut dire que vous n'avez pas eu de difficulté à vous affirmer en tant que maman, à assumer l'autorité avec vos fils ?
Pas du tout, parce que j'ai été moi-même mère. J'étais moi-même issue d'une famille très nombreuse, avec plus de garçons que de filles, et j'ai été l'aînée.
Oui.
Donc moi, j'ai souhaité avoir un garçon en premier et un autre garçon en suivi. C'est vrai, ils ont été très turbulents, mais j'ai bien posé les limites.
Ah oui, d'accord. Ça, non, mais ça nous rassure. Donc, vous avez eu des garçons turbulents. Ça va rassurer nos auditeurs qui nous appellent tous pour qui sont désemparés, en fait. Hein. Donc, vous avez bien eu des garçons normaux, très agités, c'est bien cela. Et comment avez-vous canalisé leur énergie ?
Eh bien, on a eu des activités avec eux, du sport, des jeux de société. Et puis, je les ai aussi appris à être responsables. Ils sont partis de la maison à 19 ans tous pour aller poursuivre leurs études. Ils sont en France maintenant et ils sont totalement autonomes.
Bon, c'est une belle histoire, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Fer. Est-ce que vous diriez, mesdames, Alix Leduc, Nicole Prieur, que les garçons nécessitent peut-être davantage, peut-être pas d'attention, mais en tout cas d'activités organisées, cadrées, pour canaliser cette énergie, Alix Leduc.
Oui. Moi, je commence à me rendre vraiment compte au quotidien. Par exemple, quand tu regardes des dessins animés un peu trop longtemps, c'est une catastrophe. Vraiment, il y a un avant-après impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont mal physiquement, on sent qu'ils...
C'est-à-dire que le fait de laisser des garçons devant des écrans, en fait, serait plus préjudiciable que pour des filles. Vous avez cette sensation?
J'ai lu des choses là-dessus et je m'en rends compte avec mes fils.
Ouais, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui laissent énormément d'heures leurs enfants devant la télévision. Donc, pour les garçons, vous semblez dire que vous voyez une nette différence d'énervement ensuite.
Alors après, je ne peux pas comparer avec les filles dans mon cas parce que j'ai que des garçons, mais effectivement, je les sens très très mal. Et je pense qu'il y a un manque d'activité dans ces cas-là. Enfin, ils sont beaucoup mieux quand ils vont jouer dehors, se dépenser. Enfin, c'est pas une caricature, c'est visible, c'est vraiment...
Non, je pense qu'effectivement, dans ce que vous dites, Alix, je pense qu'effectivement, quand ils voient une tablette ou quand ils sont sur leur DS, etc., il y a non seulement le manque physique, en fait, qui est là, mais aussi la difficulté de se décrocher, de se défaire d'eux. Et c'est vrai qu'on peut voir avec les garçons, j'ai envie de dire sur un plan psychique, il y a deux choses. C'est vrai qu'il faut être très présent aux enfants, aux garçons, un peu plus qu'avec les filles, quand on parle d'activité, de faire des choses avec eux. Ils ont besoin d'une présence adulte, ils ont besoin d'être un peu plus contenus, un peu plus contraints du fait justement de leur énergie qui est là. Et du coup, aussi, ils sont quelque part plus dépendants. Plus dépendants de la présence des autres et ils ont quelquefois plus de mal à vivre la séparation. Alors ce sont des caïds, hein, ça crie, ça rouspète, etc. Mais en même temps, ils sont extrêmement sensibles au processus de séparation et ils ont du mal à se séparer. Mmh. C'est ce qui fait que là, on parle beaucoup d'enfants jeunes, de garçons jeunes. Alors c'est vrai que avec des garçons jeunes, si on arrive à être présent avec eux, à faire des activités, à ne pas trop les laisser devant la télé ou leur tablette, etc., on arrive à créer, même entre mère et fils, et encore plus peut-être même entre mère et fils, on arrive à créer une véritable complicité. Parce que pour la mère, sur un plan psychique, un garçon quand même représente une espèce de complétude. C'est une façon un petit peu d'être, d'avoir à côté de soi et en prolongement de soi quelque chose que fantasmatiquement on n'a pas. Hein, la virilité, etc., la puissance, etc. Donc la complicité est possible parce qu'effectivement l'enfant, le garçon, va représenter psychiquement et fantasmatiquement quelque chose qui apporte beaucoup à la mère. Mais la difficulté que l'on peut avoir, c'est au moment de l'adolescence, au moment où l'âge adulte, où parce qu'il est quand même très proche, pendant l'enfance, il est quand même très proche de sa mère. La mère représente beaucoup de choses. Elle représente vraiment un pilier existentiel, une princesse pour le petit garçon. Et ça peut être aussi très flatteur pour la mère. Mais à l'adolescence, ça s'inverse. À l'adolescence, il a besoin un petit peu de mettre justement cette distance qu'il a quand même du mal en général à mettre avec la mère. Il est obligé de mettre une distance, de se séparer. Alors, et ce n'est pas facile.
Bien évidemment, on va parler de ces garçons lorsqu'ils prennent leur envol en particulier leur envol amoureux. Mais pour le moment, il y a des auditeurs qui nous appellent, qui ont des petits garçons, vraiment très jeunes, et qui ont des difficultés avec eux. William nous appelle d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Votre fils a 1 an, c'est votre premier enfant, William ?
Oui, c'est mon premier bébé.
Bon, ben félicitations déjà.
Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, mon expérience, c'est que j'ai remarqué que les petits garçons sont vraiment têtus.
Têtu.
Oui, vraiment.
Ouais.
Contrairement aux jeunes, aux fillettes. Parce que j'explique que je fais partie d'une grande famille. J'ai 11 enfants de la même mère. J'ai été le dernier à faire un bébé. Donc, comme c'est la famille africaine, nous avons participé à élever tous ces enfants.
Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez faire de la statistique, hein, rien qu'à l'échelle de la famille, je pense, William.
Voilà.
En effet.
Ça,
vous avez une vraie expertise.
Voilà. J'ai eu à gérer des petites filles. Lorsque elles sentent que vous les aimez, en général, lorsque vous leur dites de ne pas faire quelque chose, elles acceptent très facilement. Mais les petits garçons, ils vous comprennent très bien, ils savent ce que vous dites, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire le contraire de ce que vous,
Oui, c'est exactement ce que nous décrivait un auditeur de Kinshasa qui dit non, 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 non. On explique quelque chose à son fils et il répond non, non. En effet.
Avec le mien, voilà. Actuellement, il commence à écouter un peu plus. Mais ça requiert une très grande affection et une présence surtout du papa.
Oui.
Il ne s'agit pas de lui donner à manger, à boire et puis s'asseoir là. Dès qu'il se rend compte que pendant 3 jours, vous ne vous occupez pas de lui, il commence à vous bouder. Et quand vous lui parlez, il n'écoute pas.
Oui.
Mais lorsque vous êtes présent, vous êtes toujours là. Lorsque vous revenez du boulot, vous le prenez, vous sortez un peu, vous lui faites des câlins. Pendant cette période, quand vous lui dites quelque chose, vous voyez qu'il est un peu plus réceptif.
Oui.
Avec le mien, les débuts étaient vraiment difficiles. Mais maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, avec l'instinct de l'amour, ça commence à aller.
Mais en somme, votre fils, oui. William, est en train de vous façonner comme père. C'est merveilleux.
Voilà, il change au fur et à mesure qu'il sent qu'on s'intéresse à lui. Mais lorsque vous n'êtes pas tout présent, vous revenez du boulot directement, vous partez dormir, vous n'avez pas son temps. Lui aussi, il vous le fait sentir dans les jours qui suivent.
Ouais. Oui, donc il vaut mieux passer une demi-heure avec son fils hein, pour ensuite être tranquille parce que votre fils va être heureux, vous serez occupé de lui, il se sera défoulé. Donc c'est un peu ça hein, la conclusion de ce que je comprends de votre témoignage, William.
Oui, ça demande aussi de la fermeté aussi. Hein. Il faut aussi la fermeté.
Oui, oui. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il fait la loi à la maison. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors, on a pas mal d'auditeurs. Il y a aussi cette question de Jackie à Tana qui dit « J'ai un petit bonhomme de 6 ans. Il est fils unique. Sa mère le gâte. On joue souvent ensemble aux petites voitures, aux jeux vidéo, mais parfois je suis fatiguée par le boulot. Il ne veut rien entendre. Il veut jouer. Comment gérer cette situation ? C'est pourtant un enfant sage qui bosse bien à l'école, qui est respectueux. » On sent qu'il y a une très, très grande demande quand même dans les témoignages de nos auditeurs des petits garçons vis-à-vis de leur papa en école primaire.
Oui, tout à fait. Ils ont besoin justement de se retrouver. La place du père est très importante d'une manière générale dans l'éducation des enfants, mais par rapport aux garçons, c'est indispensable. C'est le père, traditionnellement, on le dit en psy, mais c'est vrai, c'est le père qui va faire un petit peu, qui va couper, qui va faire un peu tiers, et qui va couper un petit peu la relation qui peut être à un moment donné fusionnelle.
La relation oedipienne.
Oui, c'est ça, la relation oedipienne.
Donc, y a pas de doute. La maman et son fils.
Voilà. Et donc, elle est là, malgré ce que l'on peut dire, effectivement, d'inquiétude, parce que les enfants sont turbulents, etc. Il y a quand même cette relation édifiante très forte entre une mère et son petit garçon, et le père va venir un petit peu séparer et mettre un petit peu de distance, et il va représenter aussi une figure d'identification importante. C'est parce qu'il a envie de ressembler à son père que le petit garçon va se construire comme étant suffisamment sûr de lui et se sentir suffisamment aimable.
RFI, on est ensemble.
Au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on donne la parole à une voisine qui nous appelle de Picardie en France. Oh yeah. Yeah.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Bonjour Delphine.
Oui, bonjour. Je voulais témoigner par rapport à la différence des garçons, parce que moi, j'en ai deux sexes, j'ai une fille et deux garçons. Mm-hmm. Et moi, je trouve que les garçons, ils ne sont pas difficiles. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il s'entête en l'air, comme je vois avec mon fils, il est maladroit, il écoute difficilement, mais ça passe mieux avec lui par rapport à ma fille. Ma fille, elle est trop dure. Oui, oui, elle est trop dure. Elle a un caractère vraiment, même à l'école, les gens ont peur d'elle. Elle n'a pas de copine. Vous imaginez une fille de 5 ans, elle n'a pas de copine. Elle a du caractère. Donc moi, je dis qu'avoir un garçon, élever un garçon, c'est mieux qu'une fille. Déjà, même une fille, à la longue, son avenir est incertain, dans le sens où tu ne sais pas la personne avec à laquelle elle pourra rencontrer. Par contre, le garçon, c'est lui qui a le choix.
Ah bon? Donc, vous croyez?
Oui, oui, je crois. Oui. Parce qu'un garçon, son avenir dépend de lui. Il ne dépend pas de quelqu'un par rapport à une fille. Une fille, si elle n'a pas réussi ses études et qu'il tombe sur un mauvais mari, sa vie est foutue.
Oui.
Non, mais un garçon.
Oui, oui, c'est-à-dire de l'importance de la réussite scolaire pour les filles. Mais votre témoignage explique beaucoup de choses encore aujourd'hui dans la société française. Où, et c'est peut-être aussi pour ça que les filles surinvestissent la sphère scolaire ou la réussite scolaire. Effectivement, surtout si on ne parvient pas à réussir, entre guillemets, sa vie amoureuse. Là, on a plus de femmes diplômées que de garçons hein, en France. Oui. Mais enfin, en tout cas, voilà, voilà un témoignage qui est plutôt très positif sur l'éducation des garçons. Garçon, Alix Leduc, vous...
Moi, je pensais au témoignage de mère que j'ai interviewé pour le livre, où effectivement, il y a beaucoup de mères qui me parlaient de soulagement d'avoir un garçon, que ça pouvait être plus difficile aussi avec la fille. On parlait de relations miroirs, déjà des formes de rivalité, de... Oui. Voilà, et puis il y a aussi toutes celles pour lesquelles rien n'est simple dans cette comparaison. Donc oui, je pense que beaucoup parlent de liens plus faciles avec le garçon. C'est l'inconnu, mais finalement, au niveau psy, plus facile.
Au-delà de la turbulence qu'il faut pouvoir gérer, au-delà du fait qu'il faut effectivement qu'ils exigent de nous vraiment une présence importante, qu'ils sont toujours à demander un certain nombre de choses, il y a quelque part une relation au niveau justement symbolique et psychique quand même très forte entre le garçon et la mère. On parlait de la relation oedipienne, il n'y a pas de doute. Et finalement, une fois qu'on est un peu tranquille avec ce tonus des garçon, il se passe quelque chose quand même de très fort. Il y avait un auditeur qui parlait d'amour et d'affection entre une mère et son fils. Il y a quand même une affection aussi très très forte, quelquefois même irrationnelle. Et c'est peut-être parce que justement on a cet amour peut-être un petit peu fort qui nous dépasse, qu'on le laisse aussi peut-être, on l'autorise inconsciemment à faire un petit peu de tout et n'importe quoi. On a peut-être un peu plus de mal à le contrôler parce que finalement il représente un petit peu une espèce de dieu à la maison. Et pour l'enfant, la mère, pour le garçon, la mère est un petit peu une princesse. Donc il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'irrationnel, qui sort un petit peu du rationnel et qui nous dépasse, mais qui crée quand même un lien excessivement fort.
Mais c'est vrai que moi, il y a beaucoup de mères à chaque fois qui disent que je suis la reine de la maison. Ça revient toujours, cette espèce de fierté
pour
quand même
d'être la
que première
des garçons.
Femme. Voilà. Ouais, mais même quand elles ont des filles, elles peuvent dire, pas de la maison, mais voilà, je suis la première femme de sa vie. Enfin, j'entends des trucs comme ça. Mais il y a aussi tout le pendant qui est les peurs, enfin qui sont les peurs justement. Dans la tendresse, dans l'affection, d'aller trop loin, d'être trop.
Alors c'est ça, un petit garçon, ça fait des câlins à sa maman en général jusqu'à quel âge, dites-moi
Alors je vous ai dit,
c'est une question qui intéresse beaucoup les mamans.
C'est le premier jour où je les ai amenés, alors je ne sais plus si c'était 8-10 ans, je les ai amenés à un train pour la colonie de vacances. Là, à un moment donné, un de mes fils m'a dit: tu ne quittes pas, tu ne dépasses pas ce trait là, je ne veux pas que mes copains me voient en train d'embrasser maman ou au moment où tu m'embrasses. Donc effectivement, il y a des paliers où ils nous embrassent, ils nous font des câlins, ils adorent ça, on leur rend ça avec beaucoup de tendresse et de joie. Mais à un moment donné, il faut surtout que ça ne se voit pas à l'extérieur. Alors ça peut être évident.
Ce qui ne va pas être le cas avec les filles, hein, où cette complicité de câlins va perdurer évidemment beaucoup plus tard, voire ne s'arrêtera jamais.
Oui, et c'est là où c'est difficile entre une mère et un garçon, c'est que ça se transforme radicalement à l'adolescence. l'adolescence ou au moment où il va commencer à quitter justement le foyer pour aller vers ses amoureuses, là, la maman est reléguée un petit peu au loin et finalement, ça peut être un passage un peu difficile pour une mère.
Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on parle souvent dans la relation mère-fils de trouver la bonne distance. Oui. Moi, j'ai ça en tête tout le temps, oui. Le débordement, enfin toujours faire très attention. Et ce qui revient souvent aussi dans les témoignages des mères, c'est de se projeter plus tard en se disant quand il va grandir, il va partir pour une autre femme.
Alors voilà. Oui, là, il y a des témoignages incroyables. Il y a une certaine Lisa qui est maman de deux fils qui dit « Moi, je coach déjà mes fils. » Alors, ils ont 14 ans et 8 ans. Oui. Hein. « Je coach déjà mes fils en leur rappelant à quel point ce serait un beau cadeau que de m'offrir des copines sympas qui ne m'enlèvent pas mes fils. » Bon, dur pour les garçons de grandir de cette façon-là.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Amadou qui nous appelle de Dakar. Bonjour Amadou.
Bonjour.
Vous êtes papa de trois fils.
C'est ça.
Alors, racontez-nous. Bon, déjà, vous êtes auréolé d'une forme de prestige, non, j'imagine, à Dakar.
Oui, bon, disons que c'est facile, c'est pas facile.
Ah.
Bon. Bon, je pense qu'avec les garçons, à la maison, il faut très vite prendre le pouvoir. Parce qu'il y a un problème de comportement qu'il faut, dès le plus bas âge, éradiquer et vraiment leur donner une ligne de conduite, vraiment qu'il faut vraiment faire tout pour le maintenir.
Mais quand vous dites une ligne de conduite qu'il faut éradiquer, vous pensez à quoi, Amadou ?
Voilà. Bon, je voulais dire, bon, parce que les garçons sont avec leurs énergies débordantes et leur manière de réchigner à certaines tâches à la maison. Je pense qu'il faudra très, très vite donner des... Parce que moi, comme je n'ai pas de fille, donc il n'y a que ma femme à la maison. Donc, dès le plus jeune âge, bon, il faut d'abord faire une discipline à la maison par rapport au ménage.
Ah oui, c'est ça, participer à la marche de la maison, voilà. À l'entretien de la maison, bien sûr.
Absolument, absolument. Voilà, bon, je fais savoir que bon...
Mais quand vous avez élevé... Alors, je ne sais pas quel âge ont vos garçons, là. Ils ont quel âge, Amadou, vos fils?
On a 13, 20 et 25 ans. Les autres, c'est des grands, même.
Et comment vous étiez perçu dans le quartier par votre entourage lorsque vous disiez à vos fils que comme il n'y avait pas d'autres femmes à la maison que votre épouse, il fallait donner un coup de main dans la maison?
Oui, bon, je pense que c'était pas trop mal perçu parce qu'ils ont vu que, par exemple, que je m'investissais beaucoup, par exemple, par rapport à l'éducation et à leur manière de se comporter. Parce que, bon, il faut aller s'y mettre très tôt, il n'y a pas de fille, il n'y a que ma femme à la maison, donc les tâches ménagères et tout, ça risque d'être très dur. Donc, dès le plus jeune âge, je me suis mis, bon, dès le plus jeune, bon, on ne peut pas faire certaines tâches, mais au moins, ranger, ne pas laisser les jouer à côté.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre fierté, Amadou, d'avoir eu trois fils?
Bon, ma fierté, enfin, c'est d'être arrivé à leur inculquer un comportement et une personnalité qui leur permet aujourd'hui, par exemple, d'évoluer dehors et sans risque. Ils peuvent fréquenter n'importe qui avec des gens au comportement douteux, par exemple. Mais je ne pense pas qu'un jour, ils pourront être détournés de l'éducation que je leur ai donnée. Oui. C'est tellement, je pense que ça a été fort quand même.
Ils savent qui ils sont. Merci beaucoup pour ce témoignage, Amadou, Nicole Prieur.
Oui, je trouve qu'effectivement, Amadou dit vraiment tout à fait bien les choses. C'est-à-dire que l'éducation des enfants, des garçons aujourd'hui, ça nous place vraiment au cœur de la transformation des rôles et au cœur de la capacité à respecter l'autre sexe, finalement.
Alix Leduc, le mot de la fin, c'est pour vous, maman de trois fils.
Le mot de la fin, juste dire que moi, je suis très fière d'avoir trois fils, que je trouve que c'est une mission formidable aujourd'hui, tout particulièrement, parce que voilà, c'est très riche et passionnant.
Eh bien, merci à toutes les deux et merci à tous les témoignages d'auditeurs, de voisins, de voisines. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission du lundi au vendredi. Et demain, l'humanité commémore les 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Nous accueillerons un invité spécial, Lilian Thuram. Ce n'est pas l'ancien footballeur que nous accueillons, mais l'homme engagé, président d'une fondation. Et bien sûr, les voisins et les voisines, on compte sur vous, sur vos appels pour dialoguer avec Lilian Thuram. comment transmettre aujourd'hui au XXIe siècle la mémoire de l'esclavage. Quel devoir de mémoire dans vos pays respectifs? Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Tous vos messages aussi sur WhatsApp, en audio, et puis bien sûr vos messages écrits sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. À demain, les voisins. 170 ans de l'abolition de l'esclavage avec Lilian Thuram, invitée spéciale.